La Voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du 31 mars 2014. Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington en compagnie de Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, Conakry engage des mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui sévit en Guinée.
À Conakry, on a mis déjà en place différentes commissions qui sont chargées de superviser la prise en charge des cas.
Sakoba Keïta, chef du service national de la prévention que vous entendrez tout à l'heure. Deux jours après des violences meurtrières à Bangui, la MISCA s'explique.
Ils ont été attaqués, vous allez voir des pare-brises qui ont été cassés, des véhicules avec des trous, des balles sur les véhicules.
Vous entendrez donc également Martin Toumenta Chomou, chef militaire de la MISCA. Au Nigeria, 21 morts lors d'une tentative d'évasion au QG des services de renseignement à Abuja. Inculpé pour trahison, l'ex-président pakistanais Musharraf risque la peine de mort. Le secrétaire d'État américain John Kerry en Israël pour tenter de sauver les négociations de paix israélo-palestinienne. Et puis ensuite, nous aurons les sports et la musique de Roger Muntou en fin d'émission. Mais avant tout, le journal.
La Guinée fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Ebola. Selon l'ONG Médecins Sans Frontières, il y a 122 cas confirmés, dont 11 à Conakry et 78 décès enregistrés à travers le pays. Les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour empêcher la propagation de l'épidémie. Sur les mesures prises à Conakry, écoutons le docteur Sakoba Keïta, directeur du service national de la prévention.
À Conakry, on a mis déjà en place différentes commissions qui sont chargées de superviser la prise en charge des cas et recenser tous les contacts à Conakry des 11 malades et mettre un mécanisme de suivi durant les 21 jours qui seront gardés à résidence. Nous allons empêcher toute visite par qui que ce soit dans leur salle d'isolement. Et chaque soir, on a des points de presse sur les mesures de prévention pour que les gens comprennent que cette maladie se contracte par le contact soit avec le malade ou le cadavre ou des objets. Et donc ces messages-là sont transmis. Nous avons appelé tous les services et même les établissements de soins pour qu'on mette un dispositif de lavage des mains, et même dans les salutations, d'éviter de serrer les mains en cette période critique afin que nous puissions arrêter le plus tôt possible la propagation de l'épidémie.
Le docteur Sakoba Keïta, directeur du service national de la prévention en Guinée. Pour parer à toute éventualité, le Sénégal a fermé ses frontières terrestres avec la Guinée au niveau de Kolda et de Kédougou. Eva Marie Kolsek, ministre sénégalaise de la Santé.
Nous avons pris toutes les mesures nécessaires jusqu'à aller à fermer les frontières terrestres pour pouvoir vraiment s'organiser. Et avec les partenaires que nous avons, qui sont très mobilisés avec nous, comme l'OMS et l'UNICEF, nous avons vraiment beaucoup d'espoir. Nous avons même reçu hier encore de la Banque mondiale une requête nous disant de quoi vous avez besoin. Donc c'est dire que les gens sont aussi contents de voir qu'avant même qu'une maladie arrive, le Sénégal a pris les mesures qu'il faut.
Eva Marie Kolsek, ministre sénégalaise de la Santé.
En République centrafricaine, mise au point aujourd'hui de la MISCA sur les événements meurtriers de samedi au PK12 et dans certains quartiers nord de Bangui, le général Martin Toumenta Chomou, commandant de la force africaine, a assuré au cours d'un point de presse que les éléments de la MISCA n'ont fait que riposter à une attaque des anti-balaka au PK12 et à Gobongo. Le point avec Timothée Donangmaï.
Pour le chef des forces de la MISCA, le général Martin Toumenta Chomou, les incidents du samedi dernier dans le nord de Bangui sont un non-événement. Il a indiqué que l'escorte du colonel Abdoulaye, nouvellement affecté au sein du contingent tchadien de la MISCA, a été prise à partie au PK12 par des anti-balaka alors qu'elle revenait de Bossangoa.
Son escorte a été donc prise à partie par des anti-balaka. Ils ont été attaqués. Vous allez voir des pare-brises qui ont été cassés, des véhicules avec des trous de balles sur le véhicule. Et il m'a appelé et je lui ai demandé d'effectuer des tirs de dissuasion en vue d'ouvrir la route. Ce qu'il a fait. Et je voulais ajouter que Au même moment où il effectuait ces tirs de dissuasion, sur place, il y avait des éléments de Sangaris qui également, avec leurs tirs, ont appuyé nos éléments de l'escorte du Tchad qui a donc pu dépasser. Arrivé au niveau de Gobongo, ce fut la même chose.
Les militaires tchadiens, de leur côté, ont présenté 2 blessés, des impacts d'explosion de grenades et des balles sur leur véhicule, arguant qu'ils provenaient de cette attaque du PK-12. Le comforce de la MISCA, le général Martin Toumenta Tchomou, appelle les Centrafricains au calme et à œuvrer pour la paix. Samedi dernier, des militaires tchadiens de la MISCA ont tiré à l'arme lourde et légère au PK-12 et dans les quartiers nord de Bangui. Le bilan provisoire fait état de près d'une trentaine de civils tués et de nombreux autres blessés par balles. Un jour après ce drame, les anti-Balaka ont nié toute attaque contre ces soldats de la force africaine. Les quartiers nord de Bangui sont encore sous le choc de ces incidents du week-end. Les commerces sont restés fermés et les activités y sont réduites au minimum.
Le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé par la recrudescence de la violence. Un RCA, dans une déclaration remise aujourd'hui à la presse, Ban Ki-moon condamne tous les actes de violence perpétrés contre la population civile et contre les forces internationales qui cherchent à rétablir la paix et l'ordre en République centrafricaine. Il souligne aussi l'importance de dresser rapidement une liste d'individus qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, tel que l'exige le Conseil de sécurité. Ces gens, dit-il, auront à répondre de leurs actes.
Et au Nigeria, une tentative d'évasion dans une prison à Abuja a entraîné la mort d'au moins 21 personnes. Le point avec Lionel Gaïma.
Des détenus soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram ont attaqué les gardes de service au quartier général de la police secrète hier soir à Abuja. Il s'en est suivi un échange de tirs qui a duré une heure. Selon les autorités, l'incident a commencé quand l'un des gardes apportait de la nourriture aux prisonniers. Se servant de ses menottes, un détenu a essayé de le maîtriser en le frappant la tête. Toujours selon la même source, d'autres gardes ont réagi et il y a eu des coups de feu. Pour le moment, on ne sait pas si les victimes sont des détenus ou des pénitenciers. Il y a 2 semaines, des militants de Boko Haram ont pris d'assaut la caserne principale de l'armée nigériane dans le nord-est du pays, où ils ont libéré des dizaines de prisonniers. La plupart d'entre eux ont été tués alors qu'ils tentaient de s'échapper.
En Somalie, le gouvernement annonce l'arrestation de 2 commandants du groupe islamiste Al-Shabaab. L'un des deux est soupçonné d'avoir pris part à un attentat à la bombe qui a fait plus de 20 morts. Les 2 hommes ont été présentés à la presse ce lundi dans le village de Koriolé. Les forces somaliennes et de l'Union africaine ont repris Koriolé, rappelons-le, la semaine dernière.
D'autre part, les forces de sécurité dans la région autonome du Puntland ont capturé 20 membres présumés d'Al-Shabaab à la suite d'une opération militaire. Lors d'une conférence de presse à Garoui, le ministre de la Sécurité du Puntland, Hassan Osman Alori, a dit que des armes et des explosifs ont également été saisis pendant l'opération.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, l'ancien président Pervez Musharraf a été inculpé pour haute trahison par un tribunal spécial d'Islamabad. Il a plaidé non coupable. L'ex-chef de l'armée fait face à 5 chefs d'accusation, une décision historique dans un pays où les militaires ont toujours dominé le pouvoir civil. S'il est trouvé coupable, il risque la peine de mort. Pervez Musharraf a dirigé le Pakistan entre 1999 et 2008.
Visite en Crimée du Premier ministre russe Dmitri Medvedev. C'est le plus haut responsable de la Russie à se rendre dans la région depuis son annexion le 21 mars dernier. Il a annoncé l'augmentation des salaires et des pensions ainsi que la création d'une zone économique spéciale en Crimée.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé aujourd'hui en Israël dans le cadre d'un nouvel effort visant à empêcher l'échec des pourparlers de paix avec les Palestiniens.
Et oui, c'est la deuxième visite de M. Kerry dans la région en moins d'une semaine. Il s'est entretenu la semaine dernière en Jordanie avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Cette fois-ci, le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer séparément le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Abbas. L'un des points d'achoppement, le refus par Israël de libérer comme convenu un autre groupe de prisonniers palestiniens.
En Israël, un tribunal a condamné l'ancien premier ministre Ehud Olmert dans une nouvelle affaire de corruption. Il a été reconnu coupable d'avoir touché les pots de vin dans un énorme scandale immobilier à Jérusalem. C'est une première pour un ancien chef de gouvernement en Israël.
Des étincelles sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord a tiré des obus d'artillerie vers les eaux sud-coréennes, apparemment en réponse aux manœuvres militaires en cours entre la Corée du Sud et les États-Unis. Séoul a réagi par des tirs d'artillerie. Aucune victime n'a été enregistrée. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du Studio 13 à Washington avec Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil. En République centrafricaine, le Programme alimentaire mondial a procédé ce lundi à la distribution de vivres aux personnes déplacées de la ville de Bouar, à 400 km à l'ouest de Bangui. Environ 85 tonnes devraient être distribuées à quelques 6000 personnes, représentant quelques 1200 foyers. De Bouar, le reportage de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
C'est, dit-on, le jour que tous les déplacés ici attendaient. Des centaines de déplacés de la ville de Bouar ont rendez-vous aujourd'hui avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui va distribuer les rations alimentaires mensuelles. Dans cette foule réunie devant la cathédrale de Bouar, Madeleine Kim Mboussa, âgée de 48 ans et mère de 6 enfants, est parmi les premiers arrivés sur les lieux.
Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5 heures du matin.
Habillée en boubou rose, un foulard orange sur la tête, Madeleine, un petit sac en bandoulière, est originaire de Gambia, un village situé non loin de Bouar, qu'elle affirme avoir fui en raison des exactions des éléments de l'ancienne coalition Séléka.
Je me débrouille pour faire survivre ma famille, mon mari et moi, aidant nos parents au champ pour pouvoir avoir un peu de manioc.
À 8 heures, les portes s'ouvrent, les agents du PAM sont là, les éléments de la MISCA aussi, pour assurer la sécurité. On procède à l'appel. Madeleine attend tranquillement son tour qui interviendra à 11h07. Sa dotation, un sac de 50 kg de riz, 10 kg de haricots, 2 litres d'huile et 15 sachets de suppléments alimentaires.
Vraiment, je suis très contente. Si j'avais ça depuis, mes enfants n'auraient pas souffert. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance.
Passée sur quelques minutes après, le temps de trouver un taxi-moto, elle se rend compte que son sac de haricots avait disparu.
Il a volé nos sacs d'haricots.
Avec l'aide des autres femmes, le voleur est vite repéré. Mais là encore, sa joie est de courte durée. Son bidon d'huile vient d'être volé sur cette place remplie de badauds. D'où cette colère de sa camarade Edwige Soningpi.
Chaque fois que nous venons ici, c'est la guerre. Le problème ne vient pas des femmes, mais plutôt des hommes. Quand il s'agit de partager, ils veulent avoir la plus grande part. Et ils veulent que nous, les femmes, nous soyons perdantes.
Après une matinée très mouvementée, Madeleine retourne chez elle, tout de même contente d'avoir eu de quoi nourrir sa famille pour quelques semaines. De Bouar, dans l'ouest de la Centrafrique, Bagassi Koura pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, a décidé de prendre toutes les dispositions en vue de l'organisation d'actions d'envergure allant de sit-in aux opérations ville morte, en passant par des marches sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a eu l'effet d'une bombe et le monde politique ivoirien a recommencé à bouillonner. Jean-Roger Bian.
Un quotidien proche du RDL, le parti au pouvoir, a écrit « L'air de prévenir, le FPI annonce des troubles » et le quotidien L'Inter a ajouté « Le FPI veut tout mélanger » dans leur parution de ce lundi. Jean Abidjan, le président du Front populaire ivoirien, relève que son parti n'a pas été compris et recadre son annonce. Pascal Afinguessan.
Les manifestations, c'est dans une deuxième étape. Nous sommes dans une logique de riposte graduée. Donc pour le moment, ce qu'il faut que l'opinion retienne, c'est d'abord le boycott du recensement général de la population, le boycott des auditions de la CDVR et la reconstitution d'un processus de réconciliation nationale crédible à travers l'Organisation des États généraux de la République que nous revendiquons, la démission du ministre Ahmed Bakayoko, comme je l'ai indiqué. Voilà ce qui est à l'ordre du jour à l'heure actuelle.
La réaction du parti au pouvoir fut immédiate, rappelant le passif de la dernière crise électorale qu'il impute au FPI. Joël Nguessan, porte-parole du RDR, met en garde.
La politique de la marche
des sit-ins et des violences, c'est quelque chose qui est nuisible à l'image non seulement de notre pays, mais c'est nuisible aux populations ivoiriennes. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont décidé, lors de leur comité central, de reprendre ces actions de sabotage de la cohésion sociale, nous, au niveau du RDR, nous leur disons une chose. Un, on ne tolérera pas qu'ils créent la chienlit en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, nous disons que les nombreuses victimes de part et d'autre en ont marre de cette politique de la violence.
Le FPI proclame avoir des revendications qui, de l'avis de ses dirigeants, n'ont jamais été examinées. Pascal Afinguessa.
Nous voulons que le dialogue politique aboutisse à la libération de tous les prisonniers politiques, au dégel des comptes de tous les pro-Bagbo depuis 3 ans. Tous les cadres du FPI ont leurs avoirs chelés. C'est une situation qui est devenue intolérable, qui s'apparente à l'heure actuelle comme une atteinte à la dignité de l'homme et même qu'on peut rapprocher d'un crime contre l'humanité.
Soit, le RDR promet que tout trouble à l'ordre public ne restera pas impuni.
Le pays en reconstruction, il y a une commission de dialogue, vérité et réconciliation qui est en train de faire son travail, un excellent travail, et eux, ils veulent ramener à compte courant de la paix sociale. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre et nous encouragerons le gouvernement à prendre les mesures les plus dures pour empêcher que la tyrannie s'installe.
La météo politique, comme on le voit, est loin d'être au beau fixe en Côte d'Ivoire.
Amnesty International demande une enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Nigeria, soulignant que Boko Haram et également l'armée nigériane commettent des exactions contre des civils. L'ONG s'inquiète d'informations faisant état de centaines d'exécutions sommaires. Écoutez Emeric Elwin, chargé de programme sécurité et droits humains à Amnesty International.
Nous considérons que c'est un conflit armé non international et que l'ensemble des parties au conflit, c'est-à-dire Boko Haram ainsi que les forces de sécurité du Nigeria, sont astreintes à respecter le droit international humanitaire ainsi évidemment que les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, il y a urgence pour que cessent les exactions, à ce qu'une enquête internationale ait lieu, une enquête indépendante et impartiale qui permette d'établir la responsabilité des uns et des autres et de mettre un terme finalement à l'impunité, que ce soit vis-à-vis des forces de sécurité du Nigeria ou vis-à-vis de Boko Haram. Finalement, il faut que l'ensemble des organisations régionales pour l'Afrique se mobilisent. D'ailleurs, le président du Sénat du Nigeria a lancé un appel aux Nations Unies pour mettre fin à la situation sur place. Et d'autre part, les chefs d'État en Afrique de l'Ouest commencent réellement à s'inquiéter de l'influence négative du conflit qui oppose Boko Haram aux forces de sécurité du Nigeria sur la stabilité régionale.
Alors Amnesty International est d'autant plus inquiet finalement depuis la répression qui a suivi l'assaut du 14 mars à Maïdougouri notamment, où des centaines de présumés membres de Boko Haram s'étaient enfuis.
Oui. Ce qui s'est passé le 14 mars est gravissime. Un groupe de témoins a rapporté que 56 prisonniers qui avaient été recapturés ont été purement et simplement assassinés au moyen d'armes à feu. Et dans le reste de la journée, nous avons réussi à remonter et à reconstruire le scénario. D'autres prisonniers recapturés ont été également assassinés. Et aujourd'hui, nous tendons à démontrer qu'il y aurait 3 fosses communes contenant les corps des détenus suppliciés. Ce jour-là, ce sont près de 600 personnes qui ont été assassinées par les forces de sécurité du Nigeria.
Justement, à propos des chiffres, on ne sait pas combien de personnes sont arrêtées et qui est arrêté.
Oui, alors ça c'est très vrai. Pourquoi ? Parce que ce sont les détentions secrètes. Les gens vont réapparaître ou parfois disparaître. Elles font l'objet d'une disparition forcée, même assassinées, et on va retrouver leur cadavre plus tard. Parfois, les traitements infligés aux détenus sont tels que certains détenus ne peuvent survivre aux violences qu'on leur fait subir. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en 2012, la Commission des droits humains du Nigeria rapportait que chaque année, la police tuait 2500 personnes.
C'était Emeric Elwin d'Amnesty International France. Il était joint à Paris.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Maintenant, les témoignages des 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo.
Mirugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani. L'installation d'une antenne des réseaux de communication cellulaire à Ango, chef-lieu du territoire portant le même nom, à près de 400 km de Kisangani, va contribuer à la sécurisation de la population de ce territoire et à son désenclavement, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Swan, lors de son récent séjour à Kisangani. Selon le diplomate américain, cette antenne de communication cellulaire financé par les États-Unis d'Amérique via l'USAID, permettra désormais à la population non seulement de mieux communiquer avec d'autres coins de ce pays, mais aussi de réduire les risques et menaces des rebelles ougandais de la LRA et les éleveurs étrangers mororo originaires du Tchad et de la RCA aux terres de plusieurs exactions sur la population locale. James Swan a en outre indiqué que les États-Unis comptent renforcer les programmes de la lutte contre le VIH-SIDA en RDC.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Les séquelles néfastes du changement climatique touchent toute la planète et les gouvernements du monde entier doivent agir. C'est le message du rapport du groupe intergouvernemental d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat, publié aujourd'hui. Jacques Aristide.
Diagnostic effrayant, même s'il n'est pas nouveau, les impacts déjà observables du changement climatique sur la planète Terre sont énormes, mais les humains ne sont pas encore prêts à y faire face. Les scientifiques onusiens égrènent ces effets un à un, maladies, inondations, sécheresses, pénuries alimentaires, risques de conflits, migrations entre autres. Les populations et les systèmes naturels sont déjà vulnérables, affirme Chris Field, vice-président du GIEC.
Ce qui est le plus important dans ce rapport, c'est que nous ne sommes plus à l'époque où le changement climatique est une sorte de futur lointain. Nous vivons un monde où les changements climatiques ont déjà opéré et ont des impacts fréquents et conséquents. Nous constatons ces incidences depuis les pôles à l'équateur et des côtes aux montagnes.
Et Rajendra Pachauri, qui dirige ce groupe intergouvernemental, de renchérir.
Nous avons évalué les impacts au moment même où ils ont lieu. Il s'agit des conséquences sur les systèmes naturels et humains à travers tous les continents et les océans. Et je tiens à souligner que, compte tenu de ces effets, de même que ceux que nous avons prévus pour l'avenir, personne sur cette planète ne va être épargné par le changement climatique.
Pour ce qui est de l'Afrique précisément, le rapport indique que le réchauffement va affecter les ressources en eau, prévoyant des sécheresses plus aiguës. Mais quoi faire pour affronter la dure réalité ? Eh bien, pour le GIEC, il n'y a pas d'approche unique à l'échelle planétaire. Les experts préconisent les actions individuelles dans chaque pays, tant sur le plan national que local, de même que la collaboration au niveau des blocs régionaux. Le secrétaire d'État américain n'a pas tardé à réagir. John Kerry est d'avis que le monde doit agir de façon spectaculaire et rapide, faute de quoi, ajoute-t-il, notre mode de vie sera en danger. Et de conclure que le problème et la solution ne sont pas le fait d'un seul pays, mais les effets de l'inaction seront catastrophiques.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et Nicolas Pinault nous a rejoint dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique pour la page sportive. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie.
Alors c'est demain qu'il y aura au Caire le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Et on connaît depuis hier le nom des 8 équipes qualifiées. Grosse sensation à l'Ali, le double tenant égyptien éliminé par Ali Benghazi. Et les Congolais et les Tunisiens qui ont le sourire, le tout-puissant Mazembe de justesse l'a emporté 1-0 à Lubumbashi devant le CW Sport. Suffisant grâce au but marqué à l'extérieur lors de la défaite 2-1 à San Pedro. L'AS Vita Club, l'autre club congolais, s'incline 2-0 en Afrique du Sud sur le terrain des Kaiser Chiefs. Là encore, c'est suffisant pour accéder à la phase de poule. Le Vita Club l'avait emporté 3-0 à Kinshasa. Satisfaction aussi chez les Tunisiens. Le CS Sfaxien sans problème élimine le Oroya AC de Guinée 2-0. Carton de l'Espérance Sportive de Tunis qui bat à domicile 3-0 la AS Real Bamako. Deux autres clubs francophones tirent leur révérence. Le Coton Sport de Garoua de nouveau battu au Cameroun 1-0 par Sétif. Et puis le match nul 0-0 au Soudan n'a pas suffi pour Dolizy qui avait concédé le match nul 1 partout à l'aller. Patrick Ossems est l'entraîneur de Dolizy.
finalement, nous sommes éliminés de cette Ligue des Champions sans avoir perdu, puisque bon, on a fait un partout à l'aller, 0-0 au retour. Et je dirais que c'est d'autant plus cruel que qu'hier, on fait un match très constant où on est nettement supérieur à l'adversaire, aussi bien sur le plan technique, physique que tactique. Mais malheureusement, il nous a manqué ce petit but. Malgré des opportunités, on n'a pas eu l'efficacité qu'il fallait pour pouvoir pour nous permettre de passer ce tour.
Patrick Ossems, l'entraîneur de l'AC Dolisie.
Et Nicolas, qu'en est-il des huitièmes de finale retour de la Coupe de la Confédération ?
Évoquons la déroute des Algériens du CS Constantine face à l'ASEC Abidjan, défaite 6-0. Écoutez la joie de Siaka Traoré, l'entraîneur de l'ASEC.
Il y a de quoi être satisfait, hein. Non seulement le résultat, mais le contenu aussi était bon. Et en plus, par rapport à nos supporters qui sont venus plus que d'habitude, je pense qu'il y a de quoi être satisfait parce qu'ils sont repartis heureux. Donc moi, je suis satisfait pour eux, quoi, pour les supporters et pour mes joueurs, pour moralement, ça leur fait du bien, quoi. Comme je l'ai dit au match aller, on a manqué de réussite au match aller aussi. Enfin, on s'est créé pas mal d'occasions, mais on a manqué de réussite. Et puis bon, je pense que là-bas, on fait un bon match. On perd à 6-8 minutes de la fin sur un pénalty. Et bon, je pense qu'on avait toutes nos chances, quoi, au match retour. Et je pense qu'on a su en profiter, quoi.
Siaka Traoré, l'entraîneur de la SEC, jouait également des Maliens du Djoliba qui se qualifient. Et puis, autre information football, touché à la cuisse droite, Samuel Eto'o devrait très probablement déclarer forfait pour le quart de finale aller de Chelsea face au Paris Saint-Germain. Ce sera mercredi au Parc des Princes.
Et on termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Les résultats la nuit dernière, vainqueur de Golden State 89-84, les Knicks de New York sont presque revenus sur Atlanta pour la dernière place qualificative au play-off de la conférence Est. Chicago l'a emporté à Boston 107-102, alors que Brooklyn a la qualification dans le viseur après la victoire sur Minnesota 114-99.
Et à présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonsoir Roger.
Salut Nathalie. Alors, la chanteuse du rock Murphy Lennon célèbre son anniversaire aujourd'hui à Long Island, New York. Happy birthday à l'artiste. On l'écoute ici dans Asking You.
Alors, le nom de Murphy Lennon provient-il de John Lennon des Beatles, Roger ?
Exactement, bien deviné là, Nathalie. Ses parents adoraient tellement alors les Beatles et particulièrement John Lennon. Murphy a commencé à jouer au piano et à écrire ses propres chansons à l'âge de 9 ans.
Voilà, on écoute Murphy Lennon, Asking You, grâce à Roger Muntou, que vous retrouvez bientôt dans le RM Show. Merci. À 20h, temps universel.
Merci Nathalie.
Et Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Avec vous, c'était Nathalie Barge. La mise en onde était dirigée par Georges Léonard Sagnio. Vous pouvez nous laisser vos messages sur fr@voanews.com. Je vous dis très bonne soirée à tous. À bientôt.